Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seuil en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter ces paractualités du 13 décembre 2016 avec aujourd'hui comme titre une nouvelle édition du guide Accessibilité Universelle. Des outils de communication en cadeau pour le temps des fêtes. Insatisfaction croissante sur la ligne 747. La famille Béliveau-Hainaut de la TUC fera l'ascension du volcan Chimborazo en Équateur en juin 2017 au profit de la fondation Le Parrainage. La maison de la famille Beau-Sept-Chemin officialise un partenariat avec les éditions Midi 30. Et puis, pas de lien entre l'autisme et la grippe pendant la grossesse. Comme chaque jour, deux entretiens. Aujourd'hui avec Annick Larose d'abord, directrice générale Association du Québec pour l'intégration sociale au sujet du prix École inclusive 2017. Et puis, je vais aussi m'entretenir avec Jessica Cacciottore, voilà, chargée de projet pour la CEPS que nous avions déjà reçu il y a quelques semaines et que nous avons le plaisir d'avoir à nouveau en studio. Alors, une nouvelle édition du guide Accessibilité universelle, des outils de communication en cadeau pour le temps des fêtes. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'AlterGo, le ROPMM, autrement dit le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain et également la ville de Montréal, sont fiers d'annoncer la sortie de l'édition 2016, j'imagine 2017, du guide Accessibilité universelle des outils de communication. Créé grâce à la collaboration d'une dizaine d'organisations de la région de Montréal, ce guide se veut un outil de référence permettant à tous de rendre leurs publications efficace et accessible pour une plus grande partie de la population. Lise Roche, directrice de l'accessibilité universelle en loisirs chez AlterGo, et Anne Pelletier, directrice générale du ROPMM, s'entendent toutes deux sur la nécessité de mettre à la disposition des organisations un tel guide. Il est primordial pour toute organisation de prendre en compte les différents besoins des citoyens dans l'élaboration de leur communication. Alors, le guide Accessibilité universelle des outils de communication est un outil clé en main. Il est conçu sous forme de fiches, chacune portant sur un thème en particulier. Ces fiches contribuent à rendre accessibles plusieurs types de documents, notamment les documents imprimés, les courriels, les sites web, les projections, les images et les illustrations, les tableaux et les documents audio en format MP3. Pour plus d'informations sur tout cela et également sur une formation qui existe pour mieux savoir utiliser ces fiches, on contacte AlterGo, on fait info@altergoformation.com. Si tout va bien, je devrais maintenant accueillir Madame Larose, Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Et on va parler aujourd'hui du prix École inclusive 2017. Bonjour Madame Larose.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous parler. J'aimerais peut-être, avant que nous parlions de cette remise des prix, donc de cette demande de quoi, de candidature finalement?
Oui, c'est ça, on lance un appel aux candidatures.
Voilà, et je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu de cette Association du Québec pour l'intégration sociale. De quoi s'agit-il exactement?
Certainement, donc nous, l'ACIS, c'est son petit nom commun, qu'on entend surtout, a été créé en 1951. Nous sommes une fédération qui regroupe plus de 80 associations qui est en défense de droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on a un mandat provincial. Nos associations sont partout au Québec.
OK, d'accord. Alors, madame, parlons peu, mais parlons bien, parce que c'est toujours pareil, ça va quand même assez vite à la radio, c'est pour ça que je dis parlons peu, mais
oui,
parlons bien.
Parlez-nous
de ce prix École inclusive. Comment ce prix est-il né et il correspond à quoi et à qui?
Écoutez, c'est que bon pour la CIS et pour le mouvement de défense des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle, l'intégration ou l'inclusion scolaire est un élément extrêmement important.
Oui.
On y croit qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, si elle est bien ancrée dans sa communauté, c'est profitable pour elle, mais également c'est profitable pour le milieu. Donc ça se fait dès le tout jeune âge à la garderie, mais également ça se poursuit au niveau scolaire. Et on avait constaté, ce prix-là avait été mis en place par une de nos associations dans la région de Québec, l'Association pour l'intégration sociale, justement, de la région de la Capitale-Nationale. Et on avait décidé de commun accord de rendre ça au niveau provincial. Donc, le but de ce prix-là, c'est de souligner des expériences positives d'intégration, d'inclusion scolaire de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ça part du principe très simple que, bon, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, quand ça va bien, on n'entend jamais parler. Mais souvent, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? C'est un coup de chapeau, hein, quelque part,
oui.
Pour les équipes écoles également, parce que la candidature doit être soumise par le parent. Qui considère qu'il y a une réussite dans l'intégration de son enfant. Et donc, le coup de chapeau est donné à l'école, à l'équipe école, et puis ça crée un vent de fierté là, quand il y a une plaque qui est décernée, on implique la commission scolaire.
Ben oui.
Et en même temps, c'est pour dire, mais oui, ça existe.
Voilà.
Oui, ça peut se faire, et oui, ça peut être porteur d'éléments très positifs.
Oui, parce qu'on ne parle souvent que d'école à problème.
Oui.
Mais il y a des endroits où ça fonctionne, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Ben oui, et puis malheureusement, les syndicats, des fois, je suis pas du tout contre les syndicats, mais parfois, ont pris tout le volet d'intégration scolaire un peu en grippe. Bon, il y a des grands besoins que je ne nie pas du tout, mais malheureusement, souvent, la personne qui a une déficience intellectuelle devient un peu emblématique de ce que quand ça fonctionne pas, quand très souvent, des jeunes, que quand l'intégration est bien faite, quand il y a vraiment tout un travail qui est fait au niveau de l'équipe école qui peut être très, très bénéfique et qui nuit pas du tout aux autres élèves dans la classe et qui, au contraire, parce que ces élèves-là qui vont avoir côtoyé la différence très jeune, vont éventuellement devenir des employeurs, vont devenir des citoyens et vont regarder très différemment la personne qui a une déficience intellectuelle ou la personne qui a une trisomie notamment sur la rue, parce qu'ils vont se rappeler, moi j'ai eu un camarade ou une camarade quand j'étais enfant, donc le regard va être très très différent que par exemple des gens qui ont eu zéro contact avec la différence.
Oui, puis bon, ça fait du bien au moral aussi de voir un prix comme ça s'instaurer, parce que bon, on entend encore une fois parler tellement de coupures, de problèmes d'enseignants qui sont complètement usés et fatigués, je veux dire, parce que ça pas vraiment comment gérer tout ça.
Oui, c'est sûr qu'on n'y pas le travail qui est en arrière
ça, je
de
reconnais.
Ça. Au contraire, on le reconnaît.
Oui.
Mais en même temps, parfois, on voit qu'il y a certaines commissions scolaires qui mettent des freins et que parfois, la commission scolaire qui est juste la porte à côté est ouverte. Alors, c'est sûr que ça repose très souvent sur les épaules d'individus, sur la volonté d'individus. Raison de plus pour essayer de rendre ça contagieux. Donc, le prix est en place depuis de manière provinciale depuis 2013. On le fait aux 2 ans.
D'accord.
Donc, c'est à ce moment-là, on ouvre les candidatures peuvent nous arriver là, jusqu'en
D'accord.
février pour justement. Et après ça, nous, on fait une petite capsule vidéo pour souligner puis que la direction d'école parle à une autre direction d'école pour vraiment insuffler un peu le goût de rentrer dans cette. Puis de poursuivre. C'est une aventure comme ça.
Écoutez, en plus, je vais inviter les gens qui nous écoutent à aller justement remplir ce formulaire, parce que je l'ai sous les yeux. Et il est très, très, très complet. Il est énormément de questions complémentaires par rapport à l'accueil, au temps de présence en classe.
Parce que c'est sûr que l'intégration, c'est plus que juste de tolérer quelqu'un
c'est
dans
ça.
La classe. Hein. C'est on adapte, l'enfant, naturellement... quand il est, par exemple, en quatrième année puis qu'il a une déficience intellectuelle, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse le programme d'un élève de quatrième année. Il va faire le français à son niveau, mais il va être intégré à la classe. Il va pouvoir faire le français en même temps. Mais très souvent, de manière très personnelle, moi, j'ai une fille qui a grandi à 21 ans, qui a été intégrée à l'école régulière. Et ce qu'on a vu, et puis les répercussions sur les personnes, et ça se répercute encore aujourd'hui. Je rencontre des camarades qui sont rendus à 21 ans, puis qui me disent, mais Marie, elle aurait eu elle m'a changé mon regard sur la différence. Même temps, ces jeunes-là qui sont intégrés peuvent apprendre aussi, parce que c'est sûr que la barre est un peu plus haute, mais en même temps, nous, on remet parfois en question ce qui se fait en classe spécialisée, parce que malheureusement, en classe spécialisée, tout ce qui est académique est très, très peu valorisé au profit de, comme je dis toujours un peu en boutade, mais qui n'en est presque pas une, au profit des muffins et de la soupe.
Ah oui. Aïe, aïe, aïe.
Oui.
Oui, non, c'est sûr.
Alors, voilà, c'est un prix qu'on tient. Je vous cacherai pas qu'on n'a pas des tonnes de projets qui nous arrivent parce que malheureusement, en ce moment, on remarque un peu un recul par rapport à l'inclusion. Ben oui.
Manque de financement, etc.
C'est sûr que pour les parents, c'est de prendre le bâton du pèlerin. C'est pas nécessairement toujours facile à tous les jours. On pense parfois à tort que dans un milieu spécialisé, on va mieux comprendre la particularité de notre enfant, ce qui n'est pas toujours le cas.
Non, c'est ça.
Mais moi, c'est sûr que quand les parents décident de prendre cette voie-là, je pense qu'il faut les soutenir, il faut que l'école le soutienne, il faut que l'école considère que faut instruire les enfants, il faut les éduquer, il faut les socialiser, mais la présence d'enfants différents dans une classe, c'est un plus et non pas un gobe-temps, là.
Madame Larose, je vais être obligée de vous interrompre pour des questions de temps à cette courte émission de Par Actualité. Comment fait-on pour on écrit simplement à, je veux dire on va sur votre site internet AQIS.
Ce qui est encore plus simple, déficienceintellectuelle.org. Donc vous allez sur le site et puis vous allez voir il y a possibilité sur notre site d'avoir accès au formulaire. Sinon vous nous contactez, les gens nous contactent et ça nous fera plaisir de répondre.
Merci beaucoup Madame Larose.
Merci, je vous souhaite une excellente journée.
À vous aussi, au revoir. Par actualité régionale, je voudrais vous parler d'une famille, la famille Béliveau-Hainaut de Latuc. C'est dans le journal L'Écho, c'est Audrey Leblanc qui nous raconte ça. Cette famille fera l'ascension du volcan Chimborazo en Équateur en juin 2017 au profit de la fondation Le Parrainage. Qu'est-ce que le parrainage? Eh bien, c'est une fondation qui vient en aide aux personnes de la région de Latuc, ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La famille latucoise fait partie du groupe de 15 personnes qui réalisera un double défi, faire l'ascension du volcan et amasser 40 000 $ pour la fondation. C'est un hasard hein, si ces gens-là ont fait en sorte que tout d'un coup, en tout cas que ce groupe-là tout d'un coup se joigne au groupe déjà existant, c'est parce qu'ils avaient des atomes crochus avec des gens qui font partie de cet organisme-là et qu'en plus c'est un sujet qui les touche également. Alors ils se préparent évidemment, hein, on s'entraîne en salle, on fait de la randonnée en montagne avec tout le groupe, explique Madame Béliveau. Alors ils espèrent être prêts physiquement et mentalement, parce que c'est toute une aventure. Le grand départ aura lieu le 15 juin. Le groupe partira quand même une dizaine de jours et ils feront, avant de se mesurer au Chimborazo, ils feront l'ascension de deux autres volcans. Un qui est à presque 5000 mètres d'altitude et l'autre presque à 6000 mètres, alors que le Chimborazo dépasse les 6000 mètres d'altitude. Alors, bonne chance à eux et si vous voulez faire un don en ligne, vous le faites au www.jedonneenligne.org/ le parrainage. Jessica Cacciatore, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que vous venez, puis à chaque fois vous vous déplacez en studio. Bravo.
Mais ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Mais parce que justement, encore hier, j'en parlais, vous vous déplacez en fauteuil roulant, quand il y a de la neige comme ça, c'est pas évident, hein?
Non, c'est pas évident parce que les transports en commun sont limités.
Exactement. Mais là, vous êtes arrivé, même que vous aviez une heure d'avance, hein, parce que c'est toujours pareil, on ne sait jamais s'ils vont arriver à l'heure ou s'ils vont être en retard. Ou, hein. Alors, merci beaucoup d'être là, Jessica. Jessica, je rappelle que vous êtes chargée de projet pour l'ACEPS. Alors, vous allez nous rappeler très brièvement ce qu'est l'ACEPS pour les gens qui ne vous auraient pas entendu la première fois.
Bien sûr. En fait, c'est un organisme de défense des droits et intérêts des étudiants en situation de handicap au niveau postsecondaire. Donc, public et privé. Puis on prône l'inclusion dans les établissements scolaires.
Donc, je vous voyais tout à l'heure hocher la tête en écoutant Mme Larose parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, et vous l'entendiez et je pense que vous étiez bien d'accord avec elle hein, quand vous disiez que c'était important pour tous les élèves de se côtoyer finalement. Quoi.
Oui, bien sûr. Et puis aussi de... Je vous dirais une des problématiques aussi qu'on retrouve au postsecondaire, c'est que les étudiants qui ont un handicap un peu plus caché, un trouble d'apprentissage ou un trouble de santé mentale, n'osent pas mentionner leur handicap et donc n'ont pas accès rapidement aux services d'aide offerts dans les établissements pour les accommodements, pour mieux réussir leurs études. Okay. Et ça reste une problématique là, de ne pas vouloir avoir une étiquette sur soi.
Non, c'est ça. Mais alors, on fait quoi maintenant? Ça fait 3 ans hein, que vous travaillez fort. Et ça fait 3 ans maintenant qu'il y a, il y a comme une table de concertation, c'est ça, sur l'employabilité. Parlez-nous-en un petit peu.
Oui, en fait, on a une table de concertation d'employabilité parce que à la suite des problématiques qu'on a observées chez les étudiants, à avoir accès à un stage ou à des expériences professionnelles concrètes, il y a certaines difficultés parce qu'il y a une différence entre le monde des études et le monde professionnel.
Bien sûr.
Et donc, on a décidé de former une table qui a eu lieu en juin 2013, la première table.
Oui.
On a réuni plusieurs organismes en employabilité, instances gouvernementales, conseillers d'orientation, conseillers en emploi, d'aide en emploi, donc pour essayer de trouver des actions concrètes qu'on pourrait faire pour aider ces jeunes-là à penser à leurs expériences professionnelles durant le cursus scolaire et non pas seulement à la fin du cursus scolaire, pour qu'ils soient mieux préparés, en fait.
Oui, oui, je comprends. Et alors, aujourd'hui, vous venez de nous parler, il y a comme une bourse qui existe. Comment ça se passe?
Oui, la bourse, c'est un autre de nos programmes, en fait.
OK, d'accord.
C'est pour encourager les étudiants à poursuivre leurs études, et justement, à être plus faire de plus d'inclusion au niveau social aussi.
D'accord.
Et c'est aussi une bourse qui aide à pallier un peu les coûts liés au handicap, des fois, les matériaux qu'on aurait besoin, je ne sais pas moi, un logiciel aussi ordinateur. Ou...
D'accord. Ça veut dire que les étudiants qui présentent des difficultés en post-secondaire peuvent vous contacter directement pour recevoir cette bourse-là?
Comment ça se passe? La bourse pour cette année est terminée le 2
D'accord.
décembre.
OK.
On envoie à tous les conseillers de services d'aide adaptés dans les écoles la procédure à suivre, puis il les partage aux étudiants en situation de handicap. Par contre, si la personne ne s'est pas affichée, n'a pas été dans le service d'aide, ne va pas recevoir la publication. Donc, c'est important d'aller soit sur notre site à la CIEPS
pour
voir quand est-ce que le programme débute. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il s'affiche éventuellement au service d'aide pour avoir accès à cette bourse.
Je voudrais rappeler, la CIEPS, l'acronyme, c'est AQEIPS, ACEPS. Voilà. Oui. Non, mais c'est important parce qu'il est quand même pas tout court. Hein. Est-ce que vous aviez, parce que je vois que vous êtes venu avec beaucoup de notes, est-ce que vous aviez un message peut-être à apporter en ce moment aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui sont en difficulté ou des jeunes qui le sont eux-mêmes?
Oui, en fait, de notre bilan de l'année, on a fait beaucoup de bons coups dans le sens... On a été au colloque des conseillers d'orientation.
D'accord.
Pour donner de la formation aux conseillers d'orientation pour pouvoir encadrer le jeune dans l'évaluation des besoins plus concrètes. On a été dans des commissions scolaires, dans des établissements scolaires. Mais lorsque vient le temps de mobiliser les étudiants ou mobiliser les conseillers pour faire des activités en lien avec l'emploi, c'est très, très difficile parce que chacun est occupé dans son très quotidien d'école ou de... les tâches de
ben oui, nécessitent
un conseiller.
Mm-hmm.
Et donc, on a très peu de succès lorsqu'on envoie un sondage ou une activité qui sont à l'extérieur de l'établissement scolaire.
Bon.
Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je notre prochain défi pour l'année, c'est d'essayer d'avoir des partenariats avec des instances, plus des directions au niveau des départements de stage, au niveau de direction dans les services adaptés,
oui,
dans les établissements scolaires, parce que c'est avec les directions qu'on va pouvoir travailler en partenariat puis mobiliser ces jeunes-là aussi.
Pour qu'ils
se rendent compte de l'importance aussi du après les études.
Je comprends.
Pour éviter l'espèce de CV à la page blanche.
Oui.
Pour n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en emploi, c'est difficile de trouver un emploi, mais pour, encore plus pour un étudiant en situation de handicap, parce
que
si tu n'as pas d'expérience en emploi, bien, en fait, c'est que tu n'arrives pas à évaluer tes besoins sur le marché du travail, parce que ce ne sont pas les mêmes que dans une école où tu es assis, où on prend des notes, on écoute un professeur. Ce n'est pas la même dynamique. Donc,
mais...
plus tu as de l'expérience, plus tu fais du bénévolat, plus tu fais des petites activités d'intégration sur le marché du travail, durant les études, tu es capable de voir tes besoins, de les mentionner à l'employeur. Quand tu les mentionnes à l'employeur, tu peux lui offrir des solutions. Ça rassure grandement l'employeur, puis on focus plus sur les compétences de la personne.
Bien sûr.
Puis sur les solutions.
Oui.
Donc,
oui,
c'est plus facile à l'employeur d'embaucher dans ce cas-là un étudiant qui se connaît bien.
Oui, bien sûr. Alors, vous lui apportez des solutions.
Oui. Donc,
En tout cas, des réponses.
On tend à ça,
Tend à ça, exactement. Oui. Alors, Jessica Cacciotore, chargée de projet pour la CEPS, je vous rappelle. Alors, c'est l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire.
Oui, c'est bien ça.
C'est pour ça que ça fait un long acronyme, mais il est important de le connaître, AQEIPS, pour avoir des informations. Jessica, merci.
Et puis, s'il y a des instances qui voudraient participer à notre table de consultation en employabilité,
il faut me
communiquer. C'est moi, en fait, qui ai un peu la courroie de transmission de cette table-là.
Donc, sur le site, on vous trouve facilement, Jessica?
Oui. D'ailleurs, on peut m'écrire à projet avec un S, à commercial, à
.ca. Donc, projet à commercial, AQEPS, AQEIPS, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit, .qc.ca.
Oui.
Bravo. Parfait. Merci beaucoup, Jessica.
Merci beaucoup.
Prenez soin de vous et on va se revoir de toute façon dans les prochains mois.
Oui, bien, passez un bon temps des fêtes à tous aussi.
Ah, c'est gentil d'y avoir pensé. À vous aussi, Jessica. Pour le respect des personnes handicapées, un résident de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick essaye tant bien que mal de sensibiliser ses concitoyens à l'importance de respecter les stationnements pour personnes handicapées. Il s'appelle Albéni Mallet, il est de Caraquet, il se déplace en fauteuil roulant, il a une automobile adaptée. Selon lui, il arrive souvent que les stationnements pour personnes handicapées sont occupés par des gens sans permis. Quand il mouille ou bien qu'il y a de la neige l'hiver, c'est pas facile de se promener avec un fauteuil roulant dans un parking. Ça ne prend pas grand neige pour que tes roues bloquent là-dedans, de dire Monsieur Mallet. On en parlait un petit peu plus tôt avec Jessica. Il estime que la plupart des gens n'ont pas de mauvaises intentions, mais qu'on lui cause néanmoins bien des problèmes. Par exemple, quand quelqu'un se gare devant l'unique accès à une rampe pour fauteuil roulant. Voulons-nous bien y penser? Quelques secondes, s'il vous plaît, demande ce monsieur Albéni Mallet et je seconde, bien sûr, ici sur Canal M. Pas de lien entre l'autisme et la grippe pendant la grossesse, selon une étude américaine. Il n'y a pas de lien entre une femme enceinte qui souffre de la grippe ou qui reçoit un vaccin contre cette infection et le risque que son enfant développe un trouble du spectre de l'autisme, indique une étude publiée lundi dans la revue américaine JAMA Pediatrics. Seulement 1,6% des 196 929 enfants qui ont participé à l'étude après au moins 24 semaines de grossesse ont reçu le diagnostic d'autisme. Parmi les mères de ces enfants, moins de 1% avaient été contaminées par la grippe pendant qu'elles étaient enceintes et près de 23% avaient reçu le vaccin contre la grippe. Bien que plusieurs études aient exploré un lien possible entre la grippe durant la grossesse et le développement de l'autisme chez l'enfant, la docteure Crowen et ses collègues précisent qu'aucune d'entre elles ne s'était auparavant intéressée au vaccin contre la grippe recommandé aux femmes enceintes. Les vaccins ont été une source d'inquiétude, mais les données suggèrent qu'ils n'ont pas de lien avec un risque accru d'autisme ou avec toute autre complication périnatale, reconnaît la docteure Thornburn, qui a participé à cette nouvelle étude. Parce que nous sommes nombreux à chercher un peu de réconfort après une année 2016 éprouvante, côté actualité, Ami Télé propose en décembre deux documentaires qui sont faits sur mesure pour restaurer notre foi en l'humanité. Le diffuseur au service des personnes aveugles à mobilité réduite ou malentendante présente Les Caravaniers de l'impossible, une série documentaire de deux épisodes dans laquelle on suit une équipe de stagiaires en éducation spécialisée, accompagnée quatre jeunes handicapés aux Açores. Portés par leur accompagnateur au moyen de sacs à dos spéciaux ou encore de joëlettes, les participants sillonnent les chemins abrupts de l'archipel portugais, un endroit qu'ils n'auraient jamais pu visiter seuls étant donné leurs conditions. Et puis dans la même veine, Ami Télé offre aussi « Pas d'excuses, pas de limites », un documentaire d'une heure sur Luca Lesilex Patchouli, que nous connaissons bien ici sur les ondes de Canal M, ce danseur montréalais atteint d'arthrogrippose, une condition rare qui affecte notamment ses jambes. Malgré son handicap et ses 16 chirurgies, Luca a acquis une réputation internationale comme B-boy. En intégrant ses béquilles à ses routines, cet expert du breakdance a participé à plusieurs émissions de télé comme American Got Talent à NBC ou encore So You Think You Can Dance Canada à CTV. Il a aussi pris part aux cérémonies d'ouverture des Jeux paralympiques de Vancouver. Dans ce film, il dépeint, on nous raconte l'engagement de Patchouli auprès des jeunes à travers RAD, qui est un projet qui permet aux personnes handicapées de suivre des cours de danse urbaine. Cela dit, on nous précise que depuis, RAD malheureusement n'existe plus et il a mis fin au projet pour préserver, a-t-il dit, sa santé physique et mentale. Il parle d'une décision difficile à prendre mais nécessaire étant donné son état. Il continuera d'aider les autres via Pas d'excuses, pas de limites, ce mouvement qu'il souhaite voir grandir. Donc c'est un documentaire qui sera présenté là aussi au mois de décembre sur Ami Télé. Malheureusement, je n'ai pas les informations quant à la diffusion de cela. Il ne nous reste plus qu'une minute, à moins qu'en peut-être une minute, Jean-Sébastien nous fasse un coup de génie. Si au moins on trouvait peut-être le reportage de M. Patchouli, ce serait vraiment extraordinaire. Et puis pour finir, le RAM est à la recherche de participants à des entrevues individuelles de 45 minutes au centre-ville de Montréal les mardis 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre, autrement dit aujourd'hui, demain, après-demain. L'étude vise à tester des distributeurs automatiques de billets afin d'améliorer l'interface pour mal, non ou non voyants. La session est rémunérée 75$. On contacte Benoît au 514-284-9168. 284-9168. Jean-Sébastien.
Alors, pour la première diffusion sur Ami Télé du documentaire Pas d'excuses, pas de limites, dimanche le 18 décembre à 19h, en rediffusion mercredi le 21 décembre, 21h.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Voyez-vous, c'est ça, une équipe. Alors, quand je vous dis que je les remercie tous les jours, c'est vrai que je les remercie. Jean-Sébastien Laliberté et puis Martin Forgue et Anne-Laure Janson. Merci à vous toutes et vous tous. À demain.